Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Dana Bilodeau, salut!
Salut, salut! Bonjour tout le monde!
Bonjour tout le monde! Allô à notre très cher Brian Saint-Louis à Québec, comment ça va?
Bonjour vous deux, ça va bien?
Oui, très bien, très bien. Ben oui, c'est un petit bout qu'on ne s'est pas parlé, hein?
Ben oui, mais c'est encore l'hiver à Québec, je ne sais pas pour vous, là, nous, il neige encore.
Je refuse de reconnaître qu'il y a de la neige, j'ai rangé mes bottes d'hiver, ça fait que je me suis promené en souliers aujourd'hui, je n'étais pas très fier de moi. Cela dit, on va commencer par toi, Donald. Tu vas nous parler de ces drag queens qui chantent.
Qui chantent et qui font des disques.
Ah oui.
En passant, je voudrais féliciter Mona de Grenoble qui a remporté hier l'Olivier quand même. Hein? C'est pas rien,
c'est l'Olivier
de l'année.
L'humoriste de l'année.
L'humoriste de l'année.
Mais c'est vrai qu'elle est drôle.
Mais oui. Total.
Drôle, puis c'est moi, c'était d'entendre sortir son gros mot en T là, quand elle était très heureuse d'avoir gagné. On ne dira pas ses ondes de Canal M.
Non.
On va parler de fesses, on a parlé de ça tantôt, mais on ne parlera pas des saintes espèces.
Ouais. Bon, voilà. Et oui, j'ai eu l'idée de vous parler de ça par rapport au lancement tout récent de l'album Flash de Rita Baga.
Oui.
Alors, chez nos voisins du Sud, que l'on appelle les États-Uniens, bon, le phénomène n'a rien de nouveau puisque la célèbre RuPaul a publié depuis 1988 pas moins d'une vingtaine d'albums et pas loin d'une soixantaine de singles, ce qu'on appelait à l'époque des 45 tours pour les plus vieux. On appelle ça des EP maintenant. Artiste multidisciplinaire, RuPaul a, comme vous le savez sans doute, son émission bien à elle, la RuPaul's Drag Race, qui en est rendue à cette 17e saison. Émission de laquelle proviennent plusieurs autres drag queens qui ont enregistré des albums. Et là, il y en a, je vais vous en nommer quelques-unes. Oui. Il y a eu Alaska Thunderfuck. Et je trouve ça très drôle parce qu'elle a pris en plus comme prénom Alaska. On sait que c'est un état extrêmement républicain.
Oui.
Elle a publié son fameux album Anus, qui est grimpé au troisième rang du palmarès Dance aux États-Unis. Il y a eu également Violette Shakshki, qui n'a pas gravé d'album, mais plusieurs EP depuis 2015, dont son grand succès Jagged. Qui s'est rendu jusqu'en 11e position du palmarès Dance. Il y en a eu d'autres également. Il y a eu Adore Delano, qui a lancé 3 albums dans les années 2010. Il y a eu Trixie Mattel, devenue, elle, autrice, compositrice, interprète. Elle a publié 4 albums originaux entre 2007 et 2022. Le dernier en date, celui de Trixie Mattel, était un projet très ambitieux, puis c'est un disque double intitulé « The Blonde and Pink Albums ». C'était un projet ambitieux, surtout quand on connaît l'état du marché du disque depuis plusieurs années. Il faut vouloir faire un disque aujourd'hui. Hein?
Ouais.
Chez nous, au Québec, Mado Lamotte a sans doute été une précurseur en enregistrant en 1996 son très amusant « Rap à mini-fée ». C'était très drôle. Mais ça,
je me rappelle la chanson, oui.
Ça lui a ouvert les portes à la publication d'un album complet quelques années plus tard, sous étiquette des disques stars quand même, qui s'occupait des carrières de rock voisine, Martine Sinclair et du compositeur André Gagnon. Ouais, c'est ça, toutes les drag queens.
À leur façon.
À leur façon. Le titre du disque de Mado Lamotte, c'est Full Mado, The Remix Album. Je ne sais pas si c'est encore en vente, mais je ne l'ai pas vu sur les plateformes de téléchargement. Sur lequel elle reprend Call Girl de Nanette Workman, Téléphone mon bijou de Plastique Bertrand, Corps à corps de Châtelaine. On a aussi droit sur cette galette à une version française de Love is in the Air de Martin Steven. Elle chante aussi « Dur, dur d'être une drag queen », évidemment sur l'air et le rythme de « Dur, dur d'être un bébé » de Jordi, vous vous souvenez de ça?
Mm-hmm.
Et avis aux intéressés, on peut voir le vidéoclip de cette chanson sur YouTube. Après Mado, il y a eu d'autres drags qui ont tenté l'aventure du disque. En 2015, Michel Dorion a lancé un EP qui s'appelle « Making Up une seule vie ». Effort qui demeure à ce jour sans lendemain, mais on pourrait en écouter un petit bout.
Oui, on va prendre un petit 20 secondes.
Ouais.
Trop peu de temps dans une seule vie. Il me faut 1000 vies en même temps pour faire le tour de mes folies. Comprendre qui je suis vraiment. J'ai beau chercher tout.
Ah, c'est. Mais quand même, c'est un bon petit rythme.
Oui, c'est un bon petit rythme. Et puis bon.
Il y a une belle voix.
Il y a une belle voix. Moi, je l'encourage à continuer. Jusqu'à maintenant, c'est sans lendemain. On verra s'il va s'y remettre un jour.
Mm.
En Gaspésie, il y a une drag queen qui s'appelle Flora Gionnet-Roussy. qui a été un petit peu plus loin, elle, en créant Silver Catalano, un pseudonyme avec lequel elle a lancé sa chanson Wave. Elle a participé à au spectacle Émergence de Fierté Montréal, au spectacle Fier.es, Ensemble de la fête arc-en-ciel de Québec, en compagnie des stars académiciens Annie Villeneuve et Maxime Landry. Tout ceci m'amène donc à vous parler du dernier album paru en date, celui de Rita Baga, qui s'intitule Flash. Rita avait déjà publié quelques simples vers 2016-2017, oui, notamment Fashionista, un texte anglophone sur une musique techno. Mais pour son dernier album, Rita a décidé de créer. Elle ne voulait pas se contenter de faire des reprises. C'est pour cela que Flash contient 10 chansons. 9 d'entre elles sont originales. Elles sont majoritairement francophones, 8 sur 10. Il y en a 7 qui ont été écrites et composées par Rita Baga et son créateur, Jean-François Guévremont, oui, bien sûr. Oui. La seule reprise est la chanson anglophone « Sunglasses at Night » de Corey Hart. Grand succès des années 80. D'ailleurs, c'est la décennie de prédilection de Rita Baga. Je pense qu'on pourrait écouter un petit extrait qui s'appelle « C'est toi ».
Sur place, perdre la face, ou se dévoiler pour exister. J'ai fait mon choix, j'y reviens pas. La suite.
Là, il faut savoir que Jean-François Guévremont, c'est aussi un vrai chanteur. Il y a une formation de chanteur, si je ne me trompe pas.
Oui, oui. Tout à fait.
Ça paraît, hein?
Ça paraît.
Une bonne voix.
Il s'est entouré d'excellents musiciens. C'est un album, donc, aux sonorités électropop qui ont fait la renommée des années 80, sa décennie de prédilection. Il est paru en format physique en passant, pas seulement sur toutes les plateformes numériques. Il y a de grands noms qui collaborent au disque. Parmi eux, on compte Laurence Nerbonne et Claude Bégin, qui ont respectivement réalisé une pièce de l'album. Dans le cas de Laurence Nerbonne, c'est la chanson « C'est toi » dont on vient d'entendre un extrait. C'est le premier extrait du CD. Alors, c'est un appel à célébrer qui en est à s'assumer pleinement. Rita tenait à ce que sa première chanson soit inclusive dans son texte et ses pronoms, qu'elle reflète pleinement ses valeurs. La date de lancement de cette chanson, c'était le 17 mai dernier, soit la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ça coulait donc de source pour l'artiste. Alors, conjointement à la sortie de Flash, l'album est sorti récemment, il y a à peu près 3 semaines, je pense. Mm-hmm. Rita Baga en a profité pour donner le coup d'envoi d'une vaste tournée du Québec avec son nouveau spectacle « Spraynet ». Après 2 ans, après avoir conquis plus de 75 000 spectateurs et spectatrices avec son premier One Drag Show qui s'appelait Créature.
Oui, j'avais vu, j'avais trouvé ça vraiment bien.
Oui.
On est ensemble, on est allé voir ensemble.
Oui.
Ben oui, c'est vrai.
Oui.
C'est incroyable, même pas me lâche. Mais, de toute façon, avant que je l'oublie, on va continuer à parler de musique parce qu'on va recevoir dans quelques minutes, tout de suite après la petite indicative musicale, on va recevoir Julie Curley, qui, elle, va republier son premier album.
Ah, très bien.
Confession.
OK.
Alors, on va écouter ça.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Mais là, ce qu'on entend là, c'est un extrait de « Vivre sa vie à l'envers » qu'on retrouve sur l'album « Confession ». Album « Confession », édition 10e anniversaire. Je m'imagine qu'il était dans le premier aussi, mais on va parler de l'édition 10e anniversaire. C'est un album de Julie Curley. Julie, c'est une chanteuse, mais avant tout, c'est une personne engagée dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. C'est une de ses compositions, si vous vous rappelez, les 2 premières saisons de « Là où l'arc-en-ciel se lève », ben, c'était la musique thème était composée par Julie. Confession, Julie, bienvenue à l'émission à nouveau.
Merci, Denis Martin. Merci de me recevoir.
Ben, écoute, on trouvait ça important, d'abord parce que tu es une amie de l'émission, puis on voulait quand même faire connaître ta nouvelle production. Je sais que c'est une réédition, mais quand même, c'est intéressant. On va voir c'est quoi que tu as fait différent. D'abord, confession. Tu avais quelque chose à te confesser, Julie?
Oui, c'est ça. Ben, il y a 10 ans, j'avais beaucoup à confesser, en fait. Donc, cet album-là, il est sorti ben, il y a 10 ans, mais il est sorti en version physique uniquement, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2014, les gens avaient encore des lecteurs CD,
Oui.
hein. Donc, le numérique commençait, mais pas beaucoup. Fait que cet album-là, 12 pistes, c'est vraiment mon premier. Donc, c'est un album qui est très personnel. Donc, je l'avais sorti à l'époque, ben, pour des raisons techniques, là, uniquement en formule physique. Fait
Oui.
que je me suis dit que 10 ans plus tard, ben, ce serait le fun de leur faire découvrir aux gens, mais de le découvrir d'une autre façon, parce que ça reste confession, mais maintenant, il n'y a plus juste 12 pistes, il y en a 35.
Oh.
Fait que, ouais. C'est ça.
En fait, les gens qui prennent la version numérique, ils ont un gros bonus.
Oui, c'est ça. Mais cela étant dit, si la version physique, ça l'intéresse des gens, j'en ai encore. Et le
Oui.
bonus des versions physiques, c'est la fameuse pochette.
Oui.
Parce que c'est super le fun, tu sais, d'avoir une pochette. Il y a tout un contexte artistique pour créer des pochettes. C'est un art en soi. Il y a les paroles à l'intérieur. Il y a des photos. C'est l'univers d'un artiste. Puis je trouve ça dommage aujourd'hui que, bon, tu sais, les albums physiques se vendent presque plus parce que, ben justement, on perd cette forme d'art-là aussi de
Oui,
faire un.
c'est vrai. Mais je veux revenir sur tes confessions. Qu'est-ce que tu as confessé? As-tu confessé que tu
Ah!
étais une femme de diversité là-dedans?
Oui,
Ben
c'est ça. C'est
oui.
sûr que les confessions, c'est d'abord un album. J'ai envie de dire, c'est sur les mots de la société, mais c'est aussi sur mes mots à moi que j'avais à l'époque, que j'ai écrit à travers mes mots, finalement. Donc, c'était beaucoup un album sur la rupture amoureuse, honnêtement. À l'époque, j'étais encore avec mon ex quand j'ai fait cet album-là, mais c'est comme si je me confessais à elle aussi. T'sais, ça a été quand même un album qui était dédié sur plusieurs pistes, alors qu'il y avait d'autres pistes qui étaient très, très justement sur. Ben sur les mots sociaux en lien aussi avec la diversité sexuelle, là. Tu sais, je pense à Comme un Z dans le désert, Comme un Z dans le désert que vous avez passé d'ailleurs à ton émission, merci. C'est vraiment, tu sais, pour moi, cette chanson-là, c'est une image ludique et surréaliste de la différence. Tu sais, c'est-à-dire que ça parle d'un zèbre dans le désert qui cherche ses repères, donc ça parle de cette idée-là d'être unique, donc d'être différent des autres. Puis je posais la question dans cette chanson-là, à savoir qui s'est jamais senti, t'sais, décalé ou socialement exclu ou marginalisé. Donc, c'était vraiment une chanson qui se voulait une célébration de la différence
Et
et de
qui
son
est
inclusion.
encore plus d'actualité désormais qu'avec tout ce qui se passe présentement.
Oui, c'est ça en fait. C'est drôle parce qu'au début, t'sais, je me suis dit, est-ce que je sors Confession pour le 10e anniversaire? Puis j'avais peur de me répéter et tout. Je me disais, est-ce que c'est vraiment encore d'actualité? Puis très ironiquement, oui. Donc, le single radio que j'ai choisi, qui a pas tourné à l'époque, c'est Carence. Puis c'est une chanson, mais dans le fond, c'est une chanson très, très banale. T'sais. Ça parle des carences dans un couple, t'sais, qui étaient les carences qu'il y avait dans mon couple à moi avec mon ex-copine. Puis c'est drôle parce que, tu sais, quand je l'ai sorti, cet album-là, il y a 10 ans, j'avais quand même une certaine crainte de dévoiler mon homosexualité quand même si c'était plus accepté que jamais. Puis aujourd'hui, c'est drôle, 10 ans plus tard, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, je me suis dit, ben écoute, c'est encore plus d'actualité, puis c'est toujours autant nécessaire, malheureusement, de militer pour les droits des femmes. Parce qu'évidemment, comme nous le démontre l'actualité américaine récente, ben, les droits n'en sont jamais acquis puis ils peuvent basculer à tout moment dans la précarité. Donc, je trouvais que ça l'avait encore sa pointe d'actualité.
Alors,
C'est le fun
c'est un
de
avant.
savoir que tu écris des chansons il y a 10 ans puis que 10 ans plus tard, ça.
Ben oui, c'est encore d'actualité. On peut encore les
Ouais, c'est
jouer
ça.
sans aucun problème. Écoute, je trouve ça important parce que on parle de la diversité sexuelle et de genre. Alors, en quoi cette diversité-là habite ta création artistique ou encore comment ta création artistique habite-t-elle, tu sais, ta vie de tous les
Ouais.
jours?
Ouais, ça, ben, tu sais, moi, je pense que, tu sais, pour ce qui est de ma musique, je peux pas trop dissocier l'artiste de la personne. Ben, tu sais, je sais pas si tu me suis. Je sais, comme ça s'appelle Confession aussi, c'est un album qui est vraiment honnête. Tu sais, j'avais finalement mis sur papier des choses, puis il y a des chansons qui sont directement liées à la diversité. Tu sais, parce que, par exemple, la dernière chanson de l'album original qui se retrouve sur le 10e anniversaire, c'est Je préfère les oranges. Le fruit défendu. C'est l'histoire finalement d'Adam et Ève, mais revisité. Parce que bon, tu sais, dans Adam et Ève, bon, il y avait Adam qui croquait dans la pomme, donc c'était le fruit défendu, donc ils ne pouvaient pas être ensemble. Bon, tu sais, il y a toute une. Bon, je ne vais pas raconter l'histoire de la Genèse puis de la Bible, là, mais moi, c'est je préfère les oranges. Ça fait qu'au lieu d'aimer finalement les pommes ou d'aimer les femmes, ben Adam, il préfère les oranges. Je ne sais pas si monsieur, il préfère les hommes. Genre, fait que tu sais, c'est une chanson, ça se veut humoristique, tu sais, on revisite la Genèse, mais quand je la faisait en spectacle, c'était vraiment drôle parce que, tu sais, justement, il y avait toute une éducation de la différence qui était amenée ici. Fait, tu sais, cette idée-là de la revendication puis du militantisme, même sur scène, ça m'habite par le biais de certaines chansons. Puis, tu sais, que ce soit je préfère les oranges ou comme un zèbre dans le désert, c'est des bons exemples. C'est des métaphores de la différence, puis j'aime ça le mettre en chanson, là, parce
J'aimerais
que.
aborder avec toi un autre point que je trouve important. Bon, je pense que je t'insulterai pas si je te dis que tu n'es pas un artiste du groupe A, qu'on te retrouve pas sur les grands plateaux de télévision. En
Non.
quoi ça rend ton travail d'artiste encore plus difficile?
Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, ouais. C'est sûr qu'en tant qu'artiste indépendante, je pense que la difficulté, c'est toujours la visibilité. T'sais. Puis on parle beaucoup justement des réseaux comme Spotify, comme Apple Music. On dit qu'aujourd'hui, la musique s'est démocratisée. Ce qui n'est pas faux. T'sais, il y a 10 ans, lorsque j'ai sorti mon album, moi, je l'ai fait de façon indépendante, je l'ai produit, j'ai payé pour, j'ai fait faire les disques. Aujourd'hui, c'est très, très rapide de mettre une chanson sur Internet. Ça va très, très vite. On a tous les outils. On vous explique comment c'est facile. Sauf qu'on se perd dans une mer de gens. T'sais, on se perd dans une mer de gens. Il y en a qui ont un extrêmement de talent. Il y a beaucoup de bruit aussi. Il y a beaucoup de bruit sur Internet. Fait que ça fait en sorte que quand tu n'es pas signé par une grande maison de disques ou quand tu n'es pas dans les artistes A, comme tu dis, ben, tu as beaucoup de difficultés à démarquer. T'sais, ça reste ça. Ça reste, tu as beaucoup de difficultés à démarquer sur les plateformes numériques, mais aussi à intéresser les médias. À intéresser les traqueurs radio aussi. Tous ces services-là, ça se paye. Donc, si t'es pas connu, ben faut que tu payes cher.
Ouais.
Ou même quand tu payes, des fois, on ne prend pas tout simplement. Fait que c'est
Ben,
difficile, tu sais, c'est
on va
difficile.
espérer que cette entrevue-là va permettre à des gens de te découvrir ou te redécouvrir. Je dois arrêter ici, Julie. Alors, si on veut se procurer ton album, il est disponible sur à peu près toutes les bonnes plateformes de téléchargement. Et ou
Tout
encore,
à fait.
on va sur juliecurly.com. Julie Curly, alors, Julie avec IE, puis Curly, Curly, pour ses beaux cheveux. Hein, ses beaux cheveux qui sont frisés. Merci, Julie.
Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Même si c'était musicalement, ça dit bien.
C'est bien cute.
Ben c'est cute. Hein? Ça nous retourne dans les années 80, justement, je pense qu'on appelait ça la prédilection, la décennie de prédilection de Rita
de
Baga.
Rita Baga.
Ouais.
Mais juste avant, notre ami Maurice Bolduc, ici présent, rendons à César.
Régisseur, oui.
Notre régisseur, rendons à César ce qui appartient à César, me rappelait qu'il y a eu Gilda aussi. Hein? J'ai pas pensé d'en parler, mais c'est vrai que Gilda, qui dans les années 60, 70, menait des revues, elle a fait des disques.
Elle avait une voix extraordinaire, hein?
Oui, tout à fait. Elle a imité Marlène Dietrich, etc. Et il y a un disque qui a été réédité en disque compact. Tout ça, c'est peut-être plus en vente maintenant, mais je sais que ça s'est fait en disque compact.
Bien, merci de le souligner.
Oui,
et moi, je voulais
important.
dire qu'il y avait un autre intervenant dans cette entrevue qu'on vient d'entendre, qui
Oui.
lui aussi aimerait devenir un chanteur. Hein, c'est Gustave, mon chien,
Ah oui, ben
qui
oui.
jappe en jappe majeur.
Dans l'entrevue de Julie.
C'est ça. Mais nous, on va aller à Québec rejoindre un autre artiste important de notre émission, Brian Saint-Louis. Salut, Brian.
Bonjour, vous deux.
Bonjour.
Alors, on est de bonne humeur, hein? Ça fait du bien le lundi d'être de bonne humeur. Ouais,
C'est ça, je me sens quasiment mal parce qu'après toutes ces discussions pleines de joie de vivre, je vous arrive quand même avec deux livres,
Bon, c'est
sérieux.
le cassé de partir.
Yeah, je suis le descendo
On t'en voudra pas longtemps. Alors, on va aller parler de Poudreuse de Sophie Leroux. Pardon, je reprends. Poudreuse de Sophie Lalonde Roux.
Oui, un bel exercice de diction. Paru chez L'Instant Même, un petit roman que je n'avais pas vu, qui est paru l'an dernier, finaliste au prix littéraire des collégiens en 2025, donc cette année. Je n'avais pas porté attention à ce livre-là quand il est paru. Et puis, finalement, je ne regrette pas d'avoir retourné un peu dans le temps pour le redécouvrir. Une très belle lecture, mais quand même quelque chose d'assez chargé. On va suivre l'histoire de Lou-Antoine dans cette histoire-là. Lou-Antoine, ça commence, sa mère le jette dehors. Il est à la maison, il habite avec elle. Et là, dans une espèce de tentative désespérée qu'elle a de le forcer à le prendre qu'il se reprenne en main. parce qu'il fait dur, il sait pas quoi faire de sa vie, il abuse de substances, donc elle décide, tu t'en vas de la maison, je te jette à la porte. Et là, il va errer dans Montréal, il va retomber sur un ancien ami qu'il connaît, Étienne, qui lui va décider de lui offrir une chance de venir, il va l'inviter à venir habiter chez ses parents pendant le temps qu'il arrive à se revirer de bord. Étienne, c'est un étudiant en médecine, qui est tout respectable et tout, mais les deux ensemble vont plutôt s'encourager à devenir un peu des partenaires de consommation. Et là, pour arriver avec le sujet de l'émission, il y a quand même une idylle qui va se tisser entre Louis-Antoine et Étienne. Une belle histoire d'amour gay. Malgré tout, ils arrivent à s'aider l'un l'autre pour certaines choses, mais quand même plus à se tirer sur le boc d'autres choses. Et là, va survenir un événement tragique qui va faire que la vie de Louis-Antoine va continuer d'être compliquée pendant quand même tout ce livre-là, qui est une toute petite plaquette, mais... Tellement une histoire sensible. Je veux dire, on parle beaucoup d'itinérance ces temps-ci, de gens qui ont des problèmes de consommation. On a de la misère à être dans leur tête, de comprendre exactement comment ça fonctionne, comment ça marche, là. Ce livre-là, ça arrive très bien à nous faire comprendre à quel point c'est difficile, à quel point on n'est pas encouragé par les petits pas de bébé qu'on peut faire. On fait des petits pas, mais on n'arrive jamais à sortir complètement de nos démons. Et puis, là, ça va l'amener, ça, une quête qui va l'amener jusqu'en Gaspésie, finalement. Vraiment une belle sensibilité dans ce livre-là. À petits pas vers la guérison, ça va être long, mais c'est un petit livre. C'est lourd, mais en même temps, il y a un bon rythme, une écriture aussi qui est sans jugement, là. J'ai trouvé ça très, très touchant comme livre. Puis vraiment, c'est ça, il y a tellement de problèmes ces temps-ci avec ces enjeux-là dans la société. C'est bien de se plonger dans la tête de quelqu'un qui vit ces réalités-là.
Bien, surtout que nous, le Canalem, on est vraiment dans le cœur du village. C'est quand même un secteur très fréquenté par les personnes
névralgiques,
névralgiques
oui, tout à fait.
Les personnes en itinérance et les personnes qui consomment. Écoute, on va au métro Sherbrooke, puis
juste
le
ici.
Corridor est rempli
et voilà.
De corps en
Ah,
difficulté. C'est épouvantable. C'est épouvantable.
On est dans le parc Émilie-Gamelin, justement. Là, on est à Montréal dans ce livre-là. Puis on voit que c'est difficile, mais c'est vraiment touchant. On lui souhaite juste le mieux tout le long, puis on espère qu'il arrive, mais on comprend à quel point c'est un long chemin, se sortir de la consommation, de sortir de l'itinérance, de tout ça, là. Et tout ça mêlé avec des petites histoires d'amour gay. C'est pas central à l'histoire, mais on comprend que ça a quand même dû peser un peu pour l'amener justement à la consommation, à avoir des problèmes, le fait de pas se sentir à l'aise complètement avec lui-même. C'est un petit enjeu dans l'histoire, là.
Ben,
Donc,
ça
très
peut
intéressant.
faire lire à plein de gens qui ont parfois des regards très critiques et pas toujours informés, et pas toujours
Oui.
remplis d'humanité sur les personnes qui consomment ou qui sont dans la rue.
Oui, donc c'est intéressant.
Quand nos désirs font désordre de Mathias Quéré.
Oui, alors là, ça, c'est mon livre vraiment sérieux. Un essai que j'ai lu. Vous, est-ce que vous connaissez bien, est-ce que vous étiez bien impliqué dans les années 70-80, dans le
Bon, là,
début?
je vais quand même, on va rectifier quelque chose. Des années 70, j'étais pas majeur.
Non,
Et
moi non plus.
j'étais pas gay non plus. Alors là,
Ben,
on va.
moi, je l'étais, mais je n'étais pas majeur.
Ben, je connaissais pas ça, c'était quoi d'être
OK.
gay. Je savais pas que d'être gay, c'était d'aimer les garçons.
Ah.
Si on me l'avait expliqué, je l'aurais su bien d'avance que j'étais gay. Ben, qu'on continue.
Je vous laisse ça bien sûr at large pour les auditeurs. Est-ce que vous étiez impliqué dans ces milieux-là?
Je pense que Maurice, qui est beaucoup plus vieux que moi, non, il a le même âge que moi. Il va pas réagir. Vas-y, je vais pas t'interrompre, Brian.
Donc, Mathias Quéré, c'est une histoire du mouvement homosexuel en France. C'est paru chez Lux Éditeurs. Je pensais que ça allait être un ouvrage très, très circonscrit là, pour un lectorat très petit, mais je suis allé dans une librairie en fin de semaine, puis je l'ai vu une grosse pile sur le bord du comptoir. Donc, quand même, c'est un livre qui est peut-être appelé à être lu par beaucoup de monde, mais c'est un livre quand même là, sérieux. On va en France, puis on voit vraiment les débuts du mouvement gay, comment ça se passait. Et là, on remonte vraiment dans le temps. C'est ça, le début des années 70. Le moment où la France, comme un peu partout, l'a pris avec des lois où les personnes avec une moralité douteuse, sans guillemets dans ma voix ici, là, pouvaient perdre son emploi, où il y avait des lieux de rassemblement illégaux, il y avait des rafles de police. Les gens se rencontraient dans des pissotoirs. On était un peu dans les sujets de larmes sanguins, justement, là. Des espèces de lieux de rencontre là. On remonte là, aux premières associations universitaires et là, on va suivre vraiment. C'est un livre qui est assez sérieux. On va suivre les déclinaisons de toutes les associations qu'il y a en France, du mouvement qui s'est fait à Paris, en région. Là, on va suivre un peu comment Les homosexuels, les lesbiennes, les groupes mixtes ont pris leur place. On sent bien, là, il y a des préoccupations très modernes dans ce livre-là, de bien expliquer le rôle des femmes, de bien expliquer comment les lesbiennes étaient présentes, que ce n'était pas seulement des mouvements de gays. Ça, on le sent tous. Mais beaucoup, donc, c'est ça, on est dans. Il y a peu de moments où on est vraiment plus dans un détail qui nous amène dans une lecture passionnante. Un livre aussi très franco-français, là. Du vocabulaire, par exemple, qui est étrange. On parle souvent de PD, de Gwyn. Et c'est pas péjoratif, c'est comme si c'était du langage commun pour eux. On
Mais
parle aussi.
en France, ils ont réclamé ces mots-là, un peu comme queer aux États-Unis. Ils ont réclamé
Oui.
PD et Gwyn. Il y a une émission de radio qui s'appelle Gwyn m'en vautre à une radio en France. Alors, je pense qu'ils ont un peu dans leur humour aussi caustique.
C'est bien que tu parles de radio parce que justement, on va parler des médias qu'il y a eu. Il y a beaucoup de journaux en France qui ont eu lieu. Il y a aussi la radio qui a pris énormément de place. On est à une émission de radio qui parle de réalité queer. Donc, c'est bien de voir que ce médium-là est toujours important parce que c'est gratuit, c'est accessible à tous, tout le monde peut écouter, ça ouvre des horizons. Ça a été très important en France. Mais c'est ça, certaines petites surprise, on a le ton franco-français, là, on parle beaucoup de gauche et de droite, du moment où les conservateurs ont repris le pouvoir en France au début des années 80, qui a amené plus de droite. Ça nous fait écho à maintenant, hein, parce qu'on sent que quand les conservateurs reviennent au pouvoir, des droits qui ont été durement acquis, ça peut disparaître rapidement. Donc ça peut nous rappeler que l'histoire, ça ne fait que se répéter. Puis ça nous mène ça jusqu'aux années SIDA où on voit aussi que ben, les associations qui existaient avant ont de la misère à actualiser un peu leurs revendications, leurs messages, parce que c'est des nouvelles réalités qui à ce moment-là frappent la communauté queer. Donc un livre très sérieux, je me sentis un peu loin, mais pour l'histoire, pour le bagage, c'est important de se rappeler de nos histoires, de nos combats, de tout ça, pour savoir si, en plus, si vous avez vécu ça, si vous avez été dans des organismes communautaires aussi, vous allez vous reconnaître dans ce livre-là. Donc, intéressant pour l'histoire beaucoup. Donc, quand nos désirs font désordre, c'est paru chez Lux Éditeur.
Merci beaucoup, Baron Saint-Louis. Merci beaucoup, Donald Bilodeau.
Merci à toi.